se connecte un peu plus à ses racines africaines et à l'instrument qu'elle s'est choisi, le kamélé ngoni.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar, du lundi au jeudi à 15h10 TU, sur RFI.
RFI, Radio France Internationale, 7h30 à Paris et N'Djamena, 6h30 à Bamako.
RFI Matin.
Et justement, Vincent Dublanche, on débute ce journal au Mali.
Oui, 4000 conteneurs y sont bloqués. Impossible de repartir vers le Sénégal au vu notamment de la situation sécuritaire et malgré la pression des autorités sur les transporteurs. David Baché est avec nous dans un instant. Au Sénégal, 9 pêcheurs portés disparus en mer depuis un mois et la question des moyens de secours qui se pose à nouveau dans le pays. Tandis qu'en Guinée, c'est la question de ce que va pouvoir faire le nouveau ministre de la Justice. C'est une figure de la magistrature respectée dans le pays. Quel avenir pour le clan Kadhafi, quel futur politique, notamment en Libye. Analyse RFI à suivre après la mort mardi de Saïf al-Islam.
À la une du prochain journal à 8h, la fin d'une époque.
Celle de la guerre froide et d'une menace permanente qu'une bombe ne tombe nucléaire. De surcroît, le traité New Start qui encadrait les arsenaux nucléaires russes et américains est mort. Franck Alexandre viendra nous décrypter tout cela dans une demi-heure. On part aussi pour Minneapolis. Bien mais peu mieux faire, dit le maire, alors que 700 agents fédéraux s'en vont. Il en reste 2000.
C'est une nouvelle illustration, Vincent, des difficultés posées par le blocus économique djihadiste au Mali. Ces milliers de conteneurs coincés, il y en aurait 4000.
Coincés au Mali alors qu'ils sont vides, Andréane, et qu'ils auraient dû donc repartir vers le Sénégal, qui est la principale porte d'entrée des marchandises. Le Mali n'a pas accès à la mer. En novembre, c'était dans l'autre sens que le problème s'était posé. Des conteneurs pleins étaient bloqués au port de Dakar. Bonjour David Baché.
Bonjour,
en
bonjour cause... à tous.
Donc cette menace djihadiste permanente, David, mais pas uniquement, et forcément ça suscite de l'inquiétude.
Oui, les autorités de transition s'inquiètent des perturbations dans l'approvisionnement du Mali et exigent la restitution par les opérateurs maliens de plus de 4000 conteneurs vides attendus au port de Dakar, sans préciser l'origine du problème. Un entrepreneur malien directement concerné assure ne pas demander mieux, mais les autorités n'ont aucune solution à proposer. Nous ne trouvons pas de transporteur pour faire le trajet, justifie ce chef d'entreprise, qui rappelle que les attaques djihadistes à la frontière avec le Sénégal se sont multipliées. Ces derniers mois, on ne peut pas les forcer à prendre le risque. Jeudi dernier, au moins une douzaine de camionneurs ont été tués dans l'attaque d'un convoi, pourtant escorté par l'armée, ce qui n'est pas le cas pour les conteneurs qui reviennent à vide. Plusieurs opérateurs pointent également le manque de carburant lié à l'embargo djihadiste, ou encore la longueur des démarches aux douanes, qui prendrait plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Or, un conteneur vide et immobile est un conteneur qui ne travaille pas, un manque à gagner certain pour les compagnies maritimes.
Il y a donc un problème sécuritaire, David, manque de carburant aussi. C'est un enjeu économique et financier et c'est le cas aussi pour les consommateurs.
Les coûts logistiques sont immédiatement répercutés, avertit un économiste malien. Or, 70% des importations maliennes transitent par le port de Dakar. L'enjeu est de taille. Autre problème, dans le sens inverse, les conteneurs qui attendent à Dakar de partir au Mali. En novembre, le Mali avait obtenu du Sénégal l'annulation des pénalités de stockage. Plus de 2000 conteneurs étaient concernés. Il n'en reste plus que 304, selon le Conseil malien des chargeurs, qui donne jusqu'au 24 février à leurs propriétaires pour les enlever. Il y a 3 mois, les armateurs CMA-CGM et MSC avaient brièvement suspendu leur livraison vers le Mali, invoquant le contexte sécuritaire. Ces mesures avaient été vite levées après des négociations avec les autorités maliennes de transition, dont le contenu n'a jamais été rendu public.
Merci beaucoup. David Baché sur RFI.
Le Sénégal ou le port de Dakar sert donc de porte d'entrée aux marchandises pour le Mali enclavé. Dakar qui regarde vers la mer aussi pour le pétrole, le gaz et bien sûr le poisson.
Et oui, la pêche est une ressource centrale pour l'économie du pays. Et vu le nombre de bateaux qui partent tous les jours en mer, les incidents forcément sont légion et le manque de moyens de secours est criant. En témoigne cette nouvelle affaire de disparition. 9 pêcheurs portés disparus depuis un mois, Léa Lisa Vesterhoff.
Les 9 pêcheurs avaient pris la mer tout début janvier à bord d'une pirogue partie de la baie de Yalar, juste en dessous du port de Dakar. Leur sortie de pêche devait durer une semaine, mais selon des proches joints par téléphone, peu de temps après leur départ, le contact avec eux est perdu. Depuis, plus rien. Une situation inquiétante qui est loin d'être isolée, selon Makoumba Dieye, président de l'Union nationale des pêcheurs artisanaux.
Depuis deux mois, près de 30 pêcheurs ont disparu en mer. Il y en a eu à Yoff, à Jol, dans le centre. 7 personnes ont aussi disparu à Elinkin, dans le sud. En tout, près de 30 pêcheurs. On les cherche, mais on ne les trouve pas. C'est une grande source d'inquiétude.
En cause, selon les acteurs du secteur, les mauvaises conditions météo, les pannes de moteurs, quelquefois, mais surtout l'absence d'outils de localisation des pêcheurs disparus. Makumba Diaye.
Nous sommes au 21e siècle. Normalement, le problème de logistique ne devrait pas se poser. On devrait avoir les moyens et le matériel nécessaires pour localiser une pirogue facilement. Malheureusement, il n'y a pas de volonté politique. Lorsqu'il y a une catastrophe en mer, nous effectuons nous-mêmes les premiers secours. Nous nous cotisons pour aller à la recherche des pêcheurs.
La marine sénégalaise n'a pour l'heure pas communiqué sur ces disparitions de pêcheurs. Léa Lisa Westerhoff, Moussa Oumar Bari, Dakar, RFI.
Merci de votre fidélité à la Radio du Monde. 6h36 quasiment à Conakry en Guinée. C'est au compte-gouttes, étape par étape, que Mamadi Doumbouya forme le gouvernement dirigé par le Premier ministre Baouri. Nombre de personnalités qui l'ont soutenu durant la campagne électorale restent à leur poste. Hier soir, tout a été bouclé. 29 membres en tout dans ce gouvernement, 2 secrétaires d'État, les titulaires de la Défense nationale, du plan de la coopération internationale ainsi que de la fonction publique ont été reconduits, mais une nomination fait beaucoup parler, on en a parlé déjà ces derniers jours, celle d'Ibrahima Soride Tunkara au ministère de la Justice et des Droits Humains. Ce magistrat est connu, respecté en Guinée, c'est lui qui a instruit et dirigé le procès du massacre du 28 septembre 2009. Il a pris ses fonctions hier et la société civile guinéenne attend déjà beaucoup de lui, Guillaume Thibault.
Mesdames et messieurs, lunettes de vue noire, sobre boubou blanc, lors d'un point presse au ministère, le garde des Sceaux s'est exprimé près de 10 minutes. Ibrahima Soride Tunkara prône une justice indépendante.
Sachant que la justice guinéenne, à tort ou à raison, est, nous le savons tous, décriée et cataloguée. Il nous revient d'inverser cette tendance dans le but de l'instauration d'une véritable justice respectueuse des droits de l'homme. 1. Protection effective des libertés fondamentales. 2. Accès équitable à la justice. 3. Prévention des violations des droits de l'homme.
Au sein de la société civile, Ibrahima Soride Tunkara est une personnalité respectée. Mais à la suite de nombreuses arrestations et disparitions depuis la prise du pouvoir de Mamadi Doumbouya, les attentes sont grandes. Ibrahima Diallo, responsable du FNDC.
Dans un contexte de répression entretenu par la junte, j'espère le juger sur le courage à faire face aux crimes commis en Guinée depuis l'arrivée de la junte au pouvoir. Au-delà du FNDC, l'opinion saura bien le juger.
L'opposition politique, qui dénonce aussi des arrestations arbitraires dans ses rangs, n'a pas pour le moment commenté la nomination d'Ibrahima Soride Tunkara au ministère de la Justice.
Guillaume Thibault, en Libye, l'appel à la retenue du chef du conseil présidentiel après l'assassinat de Saïf al-Islam Kadhafi.
Mardi après-midi, il a été abattu par des hommes armés non identifiés dans sa maison de Zenten à l'ouest du pays. Un assassinat qui pose toujours beaucoup de questions. Une enquête est en cours. Saïf al-Islam avait, pour les tribus libyennes et surtout pour son clan, la valeur d'un symbole. Avec son élimination, le rêve d'un retour des Kadhafi au pouvoir disparaît. Pour les Libyens qui y croyaient, personne dans le clan Kadhafi ne bénéficie de sa popularité ni de son influence. D'après plusieurs observateurs, les répercussions de cet assassinat auront sans doute aussi des conséquences sur les parties rivales de l'Est et de l'Ouest libyen. Décryptage, RFI, Ouda Ibrahim.
La réconciliation nationale libyenne apparaît comme la première victime de l'exécution de Saïf al-Islam. Déjà, réunir les Libyens dans un dialogue s'est avéré impossible. Les 7 envoyés spéciaux onusiens y ont échoué jusqu'ici. Saïf al-Islam est la 3e personnalité de haut niveau tuée au cours des derniers mois. Des experts craignent aujourd'hui, en effet, que la multiplication des assassinats politiques ne déstabilise l'équilibre interne de la Libye et ne menace le processus en cours. Son assassinat intervient surtout à un moment sensible où les efforts des Nations Unies semblaient conduire vers une nouvelle formule de dialogue national prévue en novembre prochain. Des efforts qui pourront à nouveau ne pas aboutir. Le risque maintenant, c'est que ce processus de dialogue soit sérieusement perturbé, a affirmé sur notre antenne la spécialiste Virginie Colombier. Les acteurs régionaux et internationaux pourraient par ailleurs tirer profit de cette disparition. Saif al-Islam exprimait souvent son désaccord avec la gestion actuelle de la Libye, estimant qu'elle est influencée par des puissances étrangères, notamment les États-Unis et la Turquie.
367 prisonniers politiques libérés, 687 encore enfermés, ce sont les chiffres d'une ONG vénézuélienne de défense des droits humains, alors que le régime travaille sur une loi d'amnistie. Un millier donc de prisonniers d'opinion dans la nation sud-américaine, il serait des dizaines de milliers en Égypte. C'est ce que dit une autre organisation de défense des droits humains, Human Rights Watch, qui publie son rapport annuel.
Répression politique en Tunisie aussi, selon Human Rights Watch.
L'espace civique s'y est réduit ces derniers temps, dit l'ONG, mais un village résiste encore et toujours. C'est l'université, la même où enseigna jadis l'actuel président autoritaire, Kais Saied. Se tenait hier un colloque international. Lilia Blaise y a passé une tête.
Paradoxalement, le populisme est né dans la démocratie. On l'a bien vu.
Dans les murs de la faculté des sciences juridiques et politiques de Tunis, les langues se délient. Entre l'expérience tunisienne et celle d'autres pays, le débat sur l'avenir de la démocratie est plus que d'actualité, selon Mariam Ben Salem, professeur universitaire et spécialiste en sociologie politique. Vous sentez qu'il y a encore moyen de débattre en Tunisie de la démocratie ?
Absolument. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes qui ont assisté à ce colloque ont été étonnées de la liberté de ton. On réussit malgré tout et malgré le contexte à maintenir.
Une liberté de débattre et une forme de résistance pour Charbel Chaya, coordinateur de projet à Avocats sans frontières, l'ONG à l'origine de l'événement.
Il symbolise une résistance académique, une résistance de l'espace civique à tout ce qui se passe.
Au-delà du diagnostic sombre de l'échec des démocraties libérales dans plusieurs pays, Mariam Ben Salem évoque aussi des pistes de réflexion optimistes lors du colloque.
Comment replacer le citoyen au cœur de nos systèmes politiques ? Ce sont les éléments les plus importants.
Une bouffée d'air dans le débat, alors que février débute avec près d'une dizaine de procès politiques qui s'enchaînent au cours du mois. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Alors que se tenait hier aux États-Unis un sommet sur les minerais critiques, focus sur l'électrique dans ce journal. Les voitures électriques qui ont besoin de minerais critiques et qui ont le vent en poupe dans le monde, y compris en Afrique. Exemple au Gabon où des taxis électriques chinois sont arrivés. Yves-Laurent Goma, reportage.
Exposées à côté d'un boulevard, les voitures électriques suscitent la curiosité. Lionel Zé, descendu de son vieux taxi, admire ces voitures à la silhouette de rêve.
C'est vraiment admirable, c'est bien.
Tu veux quitter ton vieux taxi pour ça ?
Oui. Ça me fera plaisir.
Désir Matsanga, jeune diplômée sans emploi, a embrassé le métier de chauffeur de taxi depuis près d'une année. Elle aussi veut être l'une des bénéficiaires du projet Taxi Nzela, c'est-à-dire taxi pour la route.
Je pense même qu'on devrait donner Taxi Nzela à toutes les femmes. Parce qu'on est plus sérieuse, plus consciente et on ne fait pas la course sur la route.
Au-delà de la fascination, les futurs chauffeurs posent le problème de maintenance. Daryl Ondo, responsable commercial.
Les véhicules sont venus avec des techniciens chinois pour la maintenance et la formation des Gabonais dans le domaine des voitures électriques.
Et les pièces de rechange ?
Nous avons pris la peine de commander assez de pièces de rechange sur une durée peut-être de 6 à 1 an.
Il y a aussi le problème d'électricité dans une ville où les coupures sont régulières.
Pour le moment, nous ne pouvons recharger ici. Nous sommes en négociation avec les propriétaires des stations-service qui voudront bien accepter d'héberger nos bornes de recharge.
Aucun taxi électrique n'a encore démarré ses activités. Les Libreville sont impatients de les tester. Yves-Laurent Goma, Libreville.
Et écoutez maintenant ce qu'en pense Jean-Robert Médier, président du syndicat des transporteurs.
Cette arrivée pourrait paraître précipitée. Parce qu'en réalité, à y réfléchir de près, que cela arrive aujourd'hui, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, cela finira par arriver, puisque la tendance générale, c'est de sortir de l'énergie fossile. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi ? C'est de créer autour de l'arrivée de ces voitures un écosystème qui permet de rendre l'utilisation de ces voitures-là beaucoup plus fonctionnelle. L'écosystème, c'est quoi ? C'est de multiplier les stations de recharge aux besoins à partir de l'énergie solaire, créer un service après-vente adéquat, puisque c'est quand même une nouvelle technologie qui dit électrique, dit que c'est forcément couplé avec beaucoup d'électronique, former un personnel adéquat, faire qu'il y ait des pièces de rechange, et donc créer rapidement cet écosystème qui doit être mis en place rapidement et qui n'est pas impossible à mettre en place pour que ces voitures-là puissent fonctionner normalement. Je pense que le challenge est jouable, tout en se mettant dans le sens de l'histoire.
À propos recueilli par Yves-Laurent Goma, RFI Matin, la suite.
RFI, 7h44 à Paris et Kinshasa, la presse tout de suite. Avec vous, Frédéric Couteau, bonjour.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une de la presse africaine, ce matin, les États-Unis entrouvrent la porte aux produits africains.
L'Afrique reste dans le jeu commercial américain, s'exclame l'économiste maghrébin. Petit ouf de soulagement en Afrique, l'AGOA a été reconduit pour une période d'un an, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre de cette année. Le mois dernier, rappelle Le Monde Afrique, la Chambre des représentants aux États-Unis avait voté la reconduction de l'AGOA pour 3 ans, mais les sénateurs ont ramené la durée à 1 an. L'AGOA est une pièce maîtresse des relations commerciales entre les États-Unis et les pays africains. Ce traitement commercial préférentiel avait été lancé en 2000 sous la présidence du démocrate Bill Clinton. Il permet aux pays africains d'exporter de nombreux produits vers les États-Unis sans droit de douane s'ils respectent une série de conditions: pluralisme politique, respect des droits humains, lutte contre la corruption. Une trentaine de pays sur la cinquantaine du continent africain bénéficient en théorie de l'accord qui couvre un large éventail de produits allant de l'habillement à l'igname en passant par les voitures.
Alors pourquoi avoir réactivé l'AGOA? Le pays au Burkina a sa petite idée.
Donald Trump avait fait de la réactivation de cet accord un moyen de chantage, notamment sur les pays africains, dans le cadre de la guerre commerciale mondiale qu'il a déclarée dès son retour au bureau ovale. Sauf que cette stratégie hégémonique ne s'est pas révélée très payante, puisque les pays concernés, loin de se plier aux desiderata de l'oncle Sam, se sont plutôt montrés pragmatiques en traitant avec d'autres puissances, telles que la Chine, la Russie, le Japon, l'Arabie Saoudite ou encore le Qatar. Le président milliardaire ne pouvait donc pas se permettre de se passer indéfiniment d'une trentaine de pays, donc d'une trentaine de marchés, et encore moins prendre l'énorme risque de laisser son adversaire le plus redoutable qu'est la Chine contrôler seul ce vaste terrain d'opportunité.
L'Afrique a-t-elle vraiment de quoi se réjouir, s'interroge pour sa part le Djeli en Guinée.
En 2024, l'Afrique a exporté pour plus de 8 milliards de dollars de marchandises vers les États-Unis, mais ces flux restent concentrés sur un nombre restreint de pays. L'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya et le Lesotho figurent parmi les principaux bénéficiaires de l'accord. Pour ces pays, les retombées économiques ne sont donc pas négligeables, mais relève le Djeli, à l'échelle de l'ensemble du continent, elle demeure marginale. Cette réalité s'explique en grande partie par la faiblesse structurelle de l'industrialisation africaine qui limite la capacité de nombreux États à tirer profit d'un accès préférentiel aux marchés extérieurs. En ce sens, l'AGOA apparaît davantage comme un levier ponctuel que comme un véritable moteur de transformation économique. À cela, pointe encore le Djeli, s'ajoutent des conditions politiques et stratégiques qui suscitent de sérieuses interrogations. D'après plusieurs sources, la réactivation de l'accord serait notamment liée à la volonté de Washington de voir certains pays africains accueillir des migrants que les États-Unis ne souhaitent plus garder sur leur sol. Une question particulièrement chère à Donald Trump, la question aurait été explicitement soumise au Ghana. Enfin, pour l'économiste béninois Khalid Higué, interrogé par Le Point Afrique, renouveler l'accord pour une seule année le rend précaire, mais c'est mieux que rien. Cette période peut servir de transition durant laquelle nous, pays africains, devons montrer aux États-Unis tout l'intérêt qu'ils auraient à rendre l'accord durable. Nous ne pouvons pas nous passer du marché américain, souligne-t-il, mais eux non plus ne peuvent se passer de l'Afrique et de ses ressources.
À la une également, l'attaque de drones le week-end dernier sur l'aéroport de Kisangani dans l'est de la RDC. C'était bien la FCM-23. Le groupe rebelle a revendiqué l'attaque.
Oui, la FCM-23 affirme avoir détruit le centre de commandement des drones militaires. De fait, relève Jeune Afrique, la zone militaire de l'aéroport de Kisangani abrite des drones chinois et turcs utilisés par les forces armées congolaises. Pour sa part, le gouvernement local de la province de la Tchopo affirme que les drones ont été neutralisés avant d'atteindre leur cible. En tout cas, cette incursion en territoire congolais, à 700 km de Bukavu, contrôlée par les rebelles, cette incursion montre que la FCM-23 intensifie la bataille de l'air, s'exclame le site panafricain. Le groupe armé veut démontrer qu'il a la capacité de se projeter bien au-delà de la zone qu'il contrôle.
Et je vous précise que sur l'AGOA, les incertitudes sur la reconduction de ce traité, ce sera au cœur de notre journal de 7h30, temps universel tout à l'heure. Avant ça, dans une demi-heure, la revue de presse internationale. Frédéric, vous nous parlez du Washington Post dans la tour.
Oui, l'un des plus prestigieux quotidiens américains saigné à blanc, avec 300 journalistes licenciés sur 800.
À tout à l'heure.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
C'est un moment grave, dit le patron de l'ONU, Antonio Guterres, qui a appelé Russie et États-Unis à s'entendre rapidement sur un nouveau cadre. Cela fait suite à l'expiration cette nuit du traité New Start, texte de limitation de l'armement, avec un mécanisme de vérification. On fait le point sur ce sujet avec notre spécialiste défense, Franck Alexandre, dans le journal dans un peu plus de 10 minutes. La Russie et l'Ukraine qui poursuivent aujourd'hui leurs négociations sur la paix à Abu Dhabi. Aucune réelle avancée n'a été annoncée. ukrainien Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a dit s'attendre à un nouvel échange de prisonniers avec la Russie, et cela dans un avenir proche. De son côté, Moscou a de nouveau insisté sur le fait que l'Ukraine devait se plier à ses exigences. Autre négociation, celles-ci vont avoir lieu demain à Oman entre l'Iran et les États-Unis. L'Iran, où Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix en 2023, est emprisonné depuis décembre, est en grève de la faim depuis 3 jours. En Libye, le chef du conseil présidentiel appelle les différentes factions du pays à la retenue. Cela fait suite à l'assassinat de Saif el-Islam Kadhafi, abattu par des hommes armés chez lui à Zintan. Une enquête est en cours. Pour Taïwan, la discussion téléphonique hier entre les présidents chinois et américains contribuera à stabiliser la région. Cet échange qualifié d'excellent par Donald Trump et au cours duquel Xi Jinping a averti les États-Unis qu'ils devaient faire preuve de prudence dans leur vente d'armes à Taïwan. Xi Jinping qui s'est aussi entretenu avec le dirigeant russe hier, tous deux ont plaidé pour une plus étroite coopération bilatérale dans, je cite, l'intérêt de la stabilité mondiale. Et puis aux États-Unis, 700 policiers de l'immigration vont se retirer de Minneapolis où la mort de 2 personnes ces dernières semaines lors d'opérations anti-immigration a provoqué une vague de colère. Une 40aine de délégations africaines réunies donc depuis hier à Washington pour parler minerais critiques, coltan, gallium ou encore cobalt présents en nombre en RDC. Des métaux, on le rappelle, souvent essentiels dans la fabrication de batteries électriques ou dans l'électronique. L'Afrique en regorge. Tout comme la Chine, c'est dire si le sujet est crucial aujourd'hui, notamment pour les États-Unis. Analyse ce matin de notre grand invité Afrique en ligne avec Sidi Yansané, Guillaume Pitron, journaliste et chercheur associé à l'Institut des Relations internationales et stratégiques.
Bonjour Guillaume Pitron.
Bonjour.
En 2018, vous sortiez un livre enquête, La guerre des métaux rares aux éditions Les Liens qui libèrent. À l'époque, ce qu'on appelle désormais les terres rares, minerais critiques, n'étaient pas du tout connus du grand public. Désormais, ils sont dans toutes les bouches. Guillaume Pitron, peut-on dire que la guerre que vous annonciez a commencé ?
Elle avait déjà commencé en 2018 et elle ne fait que s'intensifier. Elle s'intensifie parce qu'on a toujours davantage besoin de ces métaux critiques, des métaux appelés critiques parce qu'il y a des risques de rupture d'approvisionnement compte tenu de leur production qui est tenue entre les mains de quelques pays dont la Chine. Donc, leur consommation a explosé ces dernières années parce que ces matériaux sont nécessaires pour fabriquer des moteurs de voitures électriques, des turbines d'éoliennes, mais également pour l'électronique, pour les secteurs de la défense. Et puis, les pays occidentaux n'ont pas beaucoup agi depuis 8 ans en essayant de diversifier leurs approvisionnements. Or, la guerre commerciale lancée par le président Donald Trump a forcé la Chine, en réponse à cette guerre commerciale, à sortir sa carte maîtresse, c'est-à-dire à cesser ses exportations de terres rares. Et cela crée une énorme inquiétude dans le monde occidental parce qu'on n'a pas, ou peu, de plan B pour pouvoir faire tourner nos économies.
Vous diriez que les pays africains en tirent profit, autant sur le plan économique qu'énergétique ?
À mon avis, ils n'en tirent pas assez profit. D'abord parce qu'un gisement n'est pas une mine. C'est-à-dire que dire qu'on a un gisement de terres rares ou de lithium ou de cobalt ne veut pas dire qu'on l'a exploité. Or, exploiter un gisement, c'est-à-dire ouvrir une mine, ça met du temps. Deuxièmement, une fois que l'exploitation commence, se pose la question de la juste répartition des bénéfices. Qui va travailler dans la mine ? Des Chinois ou des Africains ? Qui va raffiner le minerai ? Des Chinois ou des Africains ? Et où ? En Chine ? C'est-à-dire que le minerai sera transporté en Chine pour être raffiné sur place et sa valeur ajoutée sera transférée en Chine ? Ou est-ce que le minerai sera raffiné en Afrique avec un savoir-faire africain ? Comment se passe la répartition des gains entre les Africains et les Chinois après que le minerai a été extrait et éventuellement raffiné ? Donc l'objectif pour l'Afrique demain, c'est de faire ce qu'a fait la Chine, c'est-à-dire de devenir non pas finalement un continent où se trouvent des mines, mais un continent où se trouvent des mines et des raffineries et des usines de transformation des minerais et des usines de fabrication de composants et de batteries.
L'Amérique de Donald Trump est en pleine offensive sur le continent, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Washington qui reçoit en ce moment même plusieurs délégations africaines. Peut-on parler d'un nouveau rapport de force autour des richesses africaines ou alors est-ce que c'est business as usual ?
Je dirais que c'est business as usual et n'est-ce pas, pardon de le dire, une forme de néocolonisation, mais cette fois-ci repeinte à la sauce verte. L'avantage de l'Afrique, c'est qu'elle a pour elle une histoire qu'elle ne veut pas répéter. Et elle a aussi pour elle une ribambelle de pays acheteurs de ces matériaux, la Chine, les Européens, les Américains, pour ne citer qu'eux, et qu'ils vont pouvoir mettre en concurrence. Donc l'Afrique a entre ses mains certaines cartes à son avantage pour pouvoir choisir ses partenaires qui, en échange de ses minerais, lui fourniront le plus de savoir-faire, le plus de technologie au meilleur prix.
On peut éviter les horaires du passé, un néocolonialisme vert, dites-vous. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore un risque que l'Afrique, disons ça comme ça de manière un peu cavalière, mais rate le coche, râle le train de la transition énergétique en subissant les pressions des puissances extérieures?
Mais c'est tout à fait possible et c'est même plausible et probable. Et j'en veux pour exemple le cas de la RDC. Aujourd'hui, la RDC est un scandale géologique, c'est-à-dire que c'est un pays qui concentre énormément de ressources sous la forme de gisements et qui notamment exploite un métal phare de la transition énergétique, c'est le cobalt. Il n'y a pas de voitures électriques sans cobalt, il n'y a pas de téléphone portable sans cobalt. La RDC concentre les deux tiers des ressources mondiales de cobalt. Ce cobalt aujourd'hui est produit par la RDC, mais n'est pas transformé en RDC. Il est pour 80% de ce cobalt sorti de la RDC et raffiné en Chine. C'est-à-dire que toute la valeur ajoutée du minerai part. Donc aujourd'hui, concrètement, vous avez une situation d'une considérable iniquité dans laquelle, et une situation dans laquelle la RDC se fait, pardon de le dire, mais complètement plumée par la Chine, parce que les Congolais du Kinshasa n'ont pas été capables de faire valoir leurs intérêts face à la Chine. C'est une situation concrète qui montre que le néocolonialisme se répète avec d'autres matières premières, avec d'autres pays aux pratiques néocoloniales, et c'est précisément cette situation congolaise autour du cobalt qu'il ne faut surtout pas répéter en Guinée, au Congo, en Algérie, en Afrique du Sud, si l'Afrique veut être réellement un grand continent profitant de tous les effets potentiellement bénéfiques de la transition énergétique.
Merci infiniment, Guillaume Pitron.
Guillaume Pitron, journaliste, chercheur associé à l'IRIS, il répondait à Sidi Yansané. Maman, on vous retrouve comme chaque jour pour votre carte postale du Gondwana, la très très démocratique république, un pays, dites-vous, qui a beaucoup de classe.
Oui, pour survivre au Gondwana, tu dois faire preuve de classe, beaucoup de classe, mon ami, et surtout savoir dans quelle classe tu es et te comporter en fonction. Bah oui, d'abord, sache que la seule classe que tu as en commun avec tous les autres Gondwanais, c'est la classe des mammifères à laquelle tu appartiens, à laquelle nous appartenons tous. En dehors de celle-là, il faut te chercher ailleurs, mon ami. Eh oui, la lutte des classes est terminée, finie, capoute. On est passé à autre chose sans même s'en rendre compte. On est passé de la lutte des classes à la lutte des classes d'école. Oui, mes amis, c'est là-bas que ça se passe depuis très longtemps. La défaite des pauvres est actée, consommée et sa perpétuation se joue dans les salles de classe. Tu ne comprends pas? T'es pas d'accord? Ok, regarde comment ça se passe en très très démocratique république. Chez nous, on ne parle pas de riches ou de pauvres, non. Chez nous, il y a les en haut de en haut et les en bas de en bas. Au milieu, il n'y a rien. C'est les en haut de en haut qui sont au volant du pays, ou plutôt c'est notre leader bien-aimé, son excellence président fondateur, qui tient bien les commandes de l'avion Gondwana, les uns en première et business class, et tous les autres, même pas en classe éco, même pas dans l'avion, non, tous en bas, claqués au sol par la pauvreté, la classe populaire, les en bas de en bas, le nez toujours en l'air, pour regarder l'avion aller et venir parce que le billet est trop cher pour eux et parce qu'ils n'ont même pas de passeport. Les uns, c'est-à-dire les en haut de en haut, prenant l'avion pour aller loin là-bas, scolariser leurs enfants dans les meilleures écoles du monde. Ces écoles où les classes ne sont pas en surnombre. Ces classes où on ne fait pas deux ou trois shifts dans la journée, comme à Gondwana City, notre belle capitale, où les élèves font cours de 7h à 10h par ordre alphabétique, d'autres de 10h30 à 13h30 et le dernier groupe de 14h à 17h dans la même classe sur les mêmes bancs. Non, là-bas dans les meilleures écoles du monde, les enfants des en haut de en haut sont dans des classes où les élèves se comptent sur les doigts de la main. Ils apprennent avec les meilleurs profs, les meilleurs manuels et les meilleurs outils pour avoir les meilleurs diplômes afin de revenir au Gondwana la remplacer leurs parents en haut de en haut aux commandes de la très très démocratique république. Pendant ce temps, les enfants des en bas de en bas se débattent dans les écoles gondwanaises avec leurs classes claquées au sol, comme disent les jeunes, avec des profs et des manuels, eux aussi claqués au sol pour obtenir des diplômes claqués au sol, qui ne leur ouvriront même pas les portes de l'emploi pour des salaires claqués au sol eux aussi, pendant que les uns sont sûrs de devenir PDG, banquier, financier, ingénieur, chirurgien, maître du monde, les autres rêvent de devenir footballeur, chanteur, influenceur, tous ces métiers où t'as pas besoin de diplôme. Elle est terminée, la lutte des classes. Les riches l'ont gagné. Allez, retour en classe lundi.
Et oui, Alain, lundi, Maman, RFI Matin continue encore une heure à passer ensemble. Dans les prochaines minutes, reportage en Irlande avant le choc entre l'équipe du Trèfle et les Bleus. Ce sera ce soir en ouverture du tournoi des Six Nations. Avant ça, la revue de presse internationale et le journal de Fabrice Le Grier dans une petite minute.
Ce jeudi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Frédéric Lebel.
Un candidat d'extrême droite, André Ventura, face à un candidat socialiste, Antonio Seguro, pour le deuxième tour de la présidentielle au Portugal. Malgré l'absence de consignes de vote des autres candidats, la gauche se mobilise.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 17h10 TU, sur RFI. Retrouvez RFI sur YouTube. La Radio Mondiale est présente sur la plus grande plateforme de vidéos en ligne du monde.
Sur notre chaîne dédiée, vous pouvez écouter RFI en direct 24h sur 24, mais aussi découvrir chaque jour des vidéos d'actualité internationale et africaine, des reportages, des interviews et des podcasts.
Pour nous trouver, tapez